Radio Prague, les informations.
Le Premier ministre Petr Nečas est en visite aux Pays-Bas. Mort d'un détenu rom, verdict de la Cour de Strasbourg contre la police tchèque. Et puis le Sokol fête ses 150 ans. Tandis que le président de la République, Václav Klaus, accompagné d'une importante délégation de chefs d'entreprise, poursuit sa visite de 4 jours en Turquie, le Premier ministre, Petr Nečas, se trouve, lui, ce jeudi à La Haye. Avec son homologue néerlandais, Mark Rutte, le chef du gouvernement tchèque a abordé notamment la coopération entre les deux pays sur les questions européennes ainsi que les échanges commerciaux et leurs possibilités de développement. La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg a rendu son verdict dans l'affaire d'un Rom qui se serait suicidé alors qu'il était en détention. D'après la Cour, la police tchèque a commis des erreurs et elle devra payer 500 000 couronnes de dommages à la famille du détenu pour n'avoir pas mené une enquête approfondie indépendante. L'affaire remonte à 2002 où le jeune homme âgé de 23 ans était soupçonné d'avoir volé un magnétoscope. Après plusieurs heures de détention, il avait sauté d'une fenêtre de 8 mètres de haut alors qu'il était escorté. Les juristes de la Ligue des droits de l'homme estiment que l'enquête a été bâclée car réalisée par les mêmes officiers de police qui détenaient le jeune homme. Pour la Cour européenne, la police a commis une erreur en ne lui mettant pas de menottes et en le faisant passer devant une fenêtre sans barre. L'organisation sportive Sokol fête ses 150 ans. En effet, c'est le 16 février 1862 qu'a été créée l'unité gymnastique de Prague, renommée 2 ans plus tard Sokol de Prague. Le Sokol, organisation sportive mais aussi patriotique, est né à l'initiative de Miroslav Tirsch et Jindřich Fugner. À l'occasion de cet anniversaire, la Banque nationale tchèque a émis une pièce d'argent de collection. Interdits sous le communisme, les Sokol ont recommencé leurs activités dans tout le pays après la révolution de velours. Aujourd'hui, l'organisation compte 190 000 membres dans 1100 unités. Le Sokol continue de promouvoir le sport, mais est aussi à l'origine de nombreuses activités culturelles. Record de fréquentation en 2011 pour les stations balnéaires tchèques. Celles-ci ont en effet accueilli 711 000 touristes l'an passé, soit 5,4% de plus qu'en 2010. À noter que 60% de la clientèle était étrangère, soit environ 345 000 personnes. Un chiffre en augmentation également. La plupart de ces thermalistes se rendent à Karlovy Vary. Deuxième destination privilégiée, la région de Zlín en Moravie. L'an dernier, 162 000 touristes allemands ont pris la direction des stations thermales du pays, soit 50,7% de moins qu'en 2010. Au contraire, les touristes russes sont en augmentation avec 84 000 visiteurs. Ceux-ci ont tendance à préférer la région de Karlovy varient pour leur séjour, notamment car la ville thermale est reliée à Moscou par avion. Le commandant de bord d'un avion de Czech Airlines a succombé mercredi des suites d'un malaise peu avant son atterrissage à Prague. Le vol s'étant terminé sans encombre, l'avion de la compagnie nationale de la République tchèque avait décollé le 15 février de l'aéroport de Varsovie en direction de Prague avec 46 passagers à bord. Mais environ 30 minutes avant l'arrivée prévue, le pilote a fait un malaise cardiaque et n'a pu être ranimé par les membres de l'équipage. Le copilote a alors pris les commandes et posé l'appareil sans problème. Selon une porte-parole de Czech Airlines, la vie du capitaine n'a pu être sauvée malgré la présence des équipes de secours dès que l'avion s'est immobilisé sur la piste. De son côté, un membre du syndicat des pilotes a déploré le stress dans lequel vivaient les pilotes de la compagnie de l'alliance SkyTeam qui, en pleine cure d'austérité, a récemment annoncé le licenciement d'une centaine d'entre eux. On finit par un mot de météo vendredi, jour de fête des Miloslava. C'est un temps couvert qui régnera sur l'essentiel du territoire entre averses et chutes de neige selon les endroits. Les températures moyennes varieront entre 1 et 5 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Magdalena Rosinkova.
Faits et événements en République tchèque.
Bienvenue à l'écoute de Radio Prague et merci à Anna Kubišta pour son bulletin d'information. Au sommaire de ce magazine d'actualité préparé par la rédaction française, l'adoption par le gouvernement tchèque d'un projet de loi qui vise à renforcer les droits des victimes d'infractions pénales. Les détails dans un instant. Nous vous inviterons ensuite à l'exposition pragoise intitulée Jiný vzduch, en français notre air, consacrée à l'art surréaliste tchécoslovaque contemporain. Dans la deuxième partie de notre programme, nous brosserons le portrait de Lida Bárová, une star du cinéma tchèque et allemand de l'entre-deux-guerres. Très bonne écoute à toutes et à tous. À la suite de la réunion du gouvernement ce mercredi, le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil, du Parti civique démocrate, a présenté un projet de loi visant à renforcer les droits des victimes d'infractions pénales. Explication avec Paul Bauer.
Les victimes de faits criminels devraient voir leurs droits renforcés. Si le projet de loi décidé par le gouvernement est accepté par le Parlement, les victimes d'infractions pénales pourraient même être informées de la date de sortie des prisons de l'auteur des faits. La réforme ajoute un certain nombre de mesures afin de renforcer la dignité des victimes d'actes criminels et la qualité de l'information concernant la procédure pénale. Actuellement, aucune loi ne définit précisément la manière dont les forces de l'ordre doivent se comporter vis-à-vis des victimes d'agression. Dana Prudíková est directrice du département législatif du ministère de la Justice.
Les forces de l'ordre et les représentants de l'État devront, dès les premiers contacts avec les victimes, les informer sur les domaines précis dans lesquels elles pourront demander de l'aide et une assistance juridique. La norme veut que les victimes d'actions criminelles soient les principales preuves afin de démasquer le responsable d'un acte criminel. En République tchèque, il n'existe aucun texte encadrant cette norme.
Lors de situations délicates, comme lors des procès, les victimes pourront demander à être représentées par leurs avocats. Si la proposition de loi renforce le statut de la victime dans la procédure pénale, elle contient un certain nombre de mesures d'encadrement moral et psychologique. C'est ce que précise le vice-ministre de la Justice, František Korbel.
La victime pourra déclarer à n'importe quel moment de la procédure pénale quelles sont les conséquences des faits criminels sur sa vie et celle de son entourage familial. Cette déclaration devrait avoir un impact vertueux sur les victimes elles-mêmes. C'est une disposition essentielle à la reconnaissance des préjudices moraux consécutifs aux faits endurés par une personne ayant subi une agression.
Le mois dernier, le ministère avait annoncé souhaiter élargir le réseau des 40 centres de conseil juridique ouverts en 2010 afin d'améliorer l'information sur le droit des victimes et de renforcer leur encadrement juridique. On écoute le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil.
Les nouveaux centres de conseil que nous avons ouverts l'an dernier ont été consultés par plus de 1000 personnes. Il est évident qu'il y a un intérêt des citoyens pour ce type de service dans ce domaine. La plupart des visites l'est de personnes qui n'ont soit aucun moyen financier afin de bénéficier des services d'un avocat, soit de victimes dont les faits ont laissé des traces psychologiques. Il ne s'agit donc pas seulement de savoir si la personne a les moyens financiers de subvenir à ses besoins en matière d'assistance juridique ou si elle souhaite faire appel aux services de l'État.
La question du soutien financier de l'État est l'un des principaux volets de la proposition de loi, puisque selon le ministère de la Justice, l'État devra augmenter le soutien financier accordé aux victimes dès le début de la procédure judiciaire, passant ainsi de 25 000 à 50 000 couronnes dans les cas de préjudice physique et de 150 à 200 000 couronnes dans le cas d'un décès. Nouveauté, des aides seront également apportées lors d'infractions à la dignité humaine, notamment dans le domaine des agressions sexuelles. Le texte sera présenté dans les prochains mois au Parlement et devrait, s'il est adopté, entrer en vigueur cette année.
L'exposition intitulée Jinivzduch, soit une autre ère, consacrée aux activités du groupe surréaliste tchécoslovaque entre 1990 et 2011, se tient jusqu'au 4 avril prochain à la galerie de l'ancien Hôtel de Ville de Prague. Cet événement permet au grand public de redécouvrir un courant artistique déjà ancien, mais cependant encore bien vivace, Jean-Sébastien Létan.
Le mouvement surréaliste est né en France pendant la période de l'entre-deux-guerres. Influencé par des poètes tels que Rimbaud et Lautréamont et par le mouvement Dada des années 1910, le surréalisme voit officiellement le jour en 1924 avec la première publication du Manifeste du surréalisme, écrit par André Breton. Breton devient la tête de file de ce nouveau courant artistique. Il est rejoint par de jeunes artistes tels que Paul Éluard ou encore Salvador Dali. Pour André Breton, le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'associations négligées jusqu'à lui, à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Il tente à ruiner définitivement toutes les autres mécanismes psychiques et à se substituer à eux dans la résolution des problèmes de la vie. Son but est l'exploration du fonctionnement réel de la pensée. Il compte sur ce moyen pour changer la société. C'est ainsi que dans les années 1920, le mouvement se rapprochera du marxisme révolutionnaire avant de s'en détourner par dégoût de l'autoritarisme communiste. Mouvement international, le surréalisme trouve très tôt un fort écho en Tchécoslovaquie et s'y implante rapidement, prenant la relève du groupe d'avant-garde pragois Deviatsil, qui avait été fondé entre autres par Jaroslav Seifert et Karel Taige. le groupe surréaliste tchécoslovaque voit le jour en 1934. Bertrand Schmitt, artiste surréaliste français vivant à Prague, dont certaines œuvres sont exposées dans le cadre de cette exposition, nous rappelle l'historique du groupe et sa relation avec le mouvement en France.
En 1934, le poète Vítězslav Nezval et les peintres Toyen, Štýrský, le psychanalyste Bohuslav Brouk et d'autres ont décidé de fonder le groupe surréaliste tchécoslovaque. Tout de suite, ils avaient des contacts, ils ont intensifié les contacts avec les Français. En 1935, André Breton et Paul Éluard sont venus à Prague et il y a eu une réunion, une rencontre internationale. Donc les contacts, y compris pendant la période communiste, entre les surréalistes tchécoslovaques et les surréalistes français, se sont maintenus et ont continué. Et bien entendu, après la révolution de velours en 89, ces liens et ces contacts ont repris de façon intensive. En 1990, a été organisée à Paris une exposition sur la revue des surréalistes tchèques qui s'appelait Analogon. C'est lors de cette exposition que la plupart des jeunes membres du groupe surréaliste tchécoslovaque ont rencontré les jeunes membres du groupe surréaliste français et les contacts ont repris et ont continué.
Le groupe surréaliste tchécoslovaque a réussi, malgré les vicissitudes de l'histoire tchèque, à survivre. Il est de nouveau très vivace et sa composition se renouvelle. Le groupe s'exprime par l'intermédiaire de sa revue, Analogon. L'exposition Un autre air se veut donc une rétrospective du travail de ce groupe durant les 20 dernières années, mais aussi une présentation du travail des artistes surréalistes à l'échelle européenne. De quoi découvrir que le surréalisme n'a pas disparu et poursuit toujours son but, changer la vie. Comme nous l'affirme Thomas Mordant, artiste français dont quelques œuvres sont visibles dans cette exposition.
En partie, en très grande partie, ce qui m'a fait entrer dans le mouvement surréaliste, c'est le développement à partir d'un jeu d'écriture automatique collective d'un projet de civilisation surréaliste qui a été fait en commun entre le groupe de Prague et le groupe de Paris et qui s'appelle la civilisation surréaliste. Donc c'est un projet. Nous voulons remplacer le travail par le jeu. Nous voulons remplacer l'inégalité par l'égalité. Mais mon objectif, ce n'est pas un objectif politique. C'est-à-dire que l'égalité, une certaine liberté, etc., ça me semble quelque chose d'absolument minimal. Ce que nous cherchons, c'est une autre vie.
Pour plus de renseignements sur l'exposition et sur les activités proposées dans son cadre, consultez le site web de la revue Analogon, www.analogon.cz. Nous reviendrons sur l'exposition Un autre air ce samedi dans Culture sans frontières. Le 27 octobre 2000, disparaissait à Salzbourg l'actrice tchèque Lida Bárová. Elle avait 86 ans. D'une beauté époustouflante et particulièrement douée en langue étrangère, elle reste l'une des rares vedettes du cinéma tchèque à s'être construit une carrière internationale. Ce succès européen a néanmoins eu un côté sombre. La grande vedette du film tchèque et allemand de l'entre-deux-guerres a eu une relation amoureuse avec Joseph Goebbels, ministre de la propagande sous le Troisième Reich. Accusée de haute trahison après la guerre, Lida Bárová a été emprisonnée pendant plus d'un an et s'est ensuite exilée en Autriche. Le contact avec le public tchèque, avec ses collègues, avec son pays natal, ne se rétablira plus jamais. Les plaies resteront ouvertes des deux côtés. Qui était en fait Lida Bárová? Victime de ses propres ambitions ou victime de l'époque? C'est autour de cette même question que tournent toutes les biographies de l'actrice. Je vous propose de chercher la réponse dans les tchèques célèbres et moins célèbres.
Les tchèques célèbres et moins célèbres.
Večer jsem byla u sochaře Horáka. Dostala cenu, tak jsme ji oslavovali. No, bylo se dost, ale že bych byla... Ne, rozhodně ne. Pak jsme byli na černé kávě u kouřícího králíka.
Na si vzpomenete později, milostivá.
Lida Bárová, de son vrai nom Ludmila Babková, est née le 7 septembre 1914 dans la famille d'un fonctionnaire de la municipalité de Prague. Elle a une sœur, Zorka, qui deviendra elle aussi comédienne. Lida Bárová fait ses études d'abord au lycée et ensuite au conservatoire de Prague. En 1931, à l'âge de 17 ans, elle passe secrètement le casting pour son premier film intitulé « La carrière de Pavel Čamrda ». Secrètement, car tourner des films était interdit aux élèves du conservatoire. Ce film est un succès et Lida Bárova devient très recherchée par les cinéastes. De 1931 à 1941, il va jouer précisément dans 31 films tchécoslovaques et travailler avec les plus grands réalisateurs de l'époque. Elle se lie d'amitié avec le propriétaire des studios de cinéma de Barrandov, Miloš Havel, l'oncle de Václav Havel. Le réalisateur Karel Anton emmène Lida Bárova à Paris où elle vit une courte histoire d'amour avec Charles Boyer. Elle impressionne tout le monde par son physique, plus beau encore, paraît-il, quand elle n'était pas maquillée, par ses yeux noirs en amande, ses pommettes hautes, sa peau magnifique. Le réalisateur Otakar Vavra se souvient dans un livre qui lui est consacré.
Elle était vraiment la plus belle de toutes, mais sa beauté n'était pas froide. Elle avait un charme très féminin, sensuel.
L'année 1934 marque un tournant dans sa carrière. Lida Bárova est engagée par le célèbre studio allemand UFA. Elle campe le rôle principal féminin dans le film Barcarolle, le rôle de la femme la plus belle de Venise. Choyée par le public allemand et appréciée par la critique, Lida Bárova devient à 20 ans une star internationale.
Une pomme au petit déjeuner, ensuite 4 heures d'allemand avec ma professeure, Madame Hahne, une pomme au déjeuner. Et oui, j'étais au régime. Les producteurs allemands ont trouvé que j'avais des formes avantageuses, pour ainsi dire.
C'est ainsi que Lida Bárova a décrit ses préparatifs pour le tournage du film Barcarolle. En 3 semaines, elle se perfectionne à tel point qu'elle n'a plus d'accent en allemand. Et ce talent pour l'apprentissage des langues étrangères, Lida Bárova le confirmera plusieurs fois au cours de sa vie, lorsqu'elle jouera avec la même aisance dans des films italiens et espagnols. Après la sortie de Barcarolle, l'actrice signe un contrat avec UEFA qui lui permettra de jouer jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale dans une dizaine de films allemands. Un détail encore, sur le tournage de Barcarolle, elle fait connaissance de la grande star du cinéma allemand, le charmant Gustav Fröhlich. Ils formeront un couple à l'écran et dans la vie. Dans la deuxième moitié des années 1930, un autre homme entre dans la vie de Lida Bárova, Joseph Goebbels. Ministre de la propagande, un des hommes les plus influents de l'Allemagne nazie, très proche de Führer. Il a 17 ans de plus que Lidushka, comme il appelait Bárova. Il est marié, il a des enfants. Il est petit, il a une jambe déformée, mais il a, semble-t-il, du charisme. Il joue très bien du piano, il sait captiver les gens, y compris la belle actrice tchèque dont il tombe amoureux. Ils se côtoient pendant 2 ans, de 1936 à 1938. Pendant cette période, les studios hollywoodiens proposent à Bárova un contrat pour 7 ans. Elle hésite, puis refuse, décision qu'elle regrettera jusqu'à la fin de ses jours. Goebbels veut divorcer, leur relation devient une affaire d'État, affaire qui aurait probablement été réglée par Adolf Hitler en personne. Résultat, Lida Bárova devient persona non grata en Allemagne. Elle ne peut plus y tourner, elle ne peut même pas apparaître en public. L'actrice se réfugie à Prague où elle fait du théâtre et où elle est repérée par Vittorio De Sica. Grâce à lui, elle peut tourner pendant la guerre 7 films à Rome. Après la libération, Lida Bárova connaît le même sort que de nombreuses personnalités culturelles tchécoslovaques accusées dans un esprit de vengeance et de haine de collaboration avec les nazis. Elle est incarcérée pendant 16 mois à la prison pragoise de Pankrát, puis elle s'exile dans des conditions assez dramatiques en Autriche. Sa ville pragoise est confisquée, son père doit déménager du jour au lendemain. Jusqu'à la fin des années 1950, Lida Bárova a joué au théâtre et tourné des films en Italie et en Espagne, films hélas absolument inconnus du public tchèque. À une exception près, en 2009 est sorti en DVD le long métrage I Vitelloni, Les Inutiles, datant de 1953, où Lida Bárova a été dirigée par Federico Fellini.
Porti via questi libri, per favore.
Gli aiuti anche lei.
Allora ci penso io.
Che temperamento. Solo ieri sera ho capito che lei è una vera donna.
Ma lei è ubriaco.
Après la révolution de velours, Lida Barova a effectué quelques courts séjours en République tchèque. Elle craignait d'être mal accueillie par ses compatriotes, mais au contraire, une foule énorme est venue à la soirée de dédicace de ses mémoires. Son nom a fonctionné et fonctionne toujours comme un aimant. L'année dernière, un autre livre de ses souvenirs, rédigé dans les années 1980 au Canada par l'écrivain Josef Škvoretský, a été édité pour la première fois en République tchèque et ça a été un best-seller. Pourtant, la vie de la star tchèque ne s'est pas terminée par un happy end. Lida Barova a passé ses dernières années dans la solitude, hantée par les fantômes de son passé, nostalgique de son pays, sombrant dans l'alcool. Pas un seul représentant officiel de l'État tchèque n'est venu à ses obsèques à Prague. L'incroyable destin de Lida Barova ainsi que son charisme et l'attrait de sa personnalité ont toujours intrigué les écrivains, les journalistes, les cinéastes. Certains ont réussi à entrer en contact avec elle, venaient la voir à Salzbourg, discuter avec elle, chercher à comprendre sa relation fatale avec Goebbels, entourée aujourd'hui encore de mystères. L'un d'entre eux, le journaliste Stanislav Motl, écrit dans un de ses livres consacrés à l'actrice.
Lida Barova me disait, il est tombé éperdument follement amoureux de moi, mais elle soulignait à chaque fois que de son côté ce n'était pas un vrai amour. Mais ses confessions ont été assez contradictoires au cours de nos rencontres. Elle m'a sorti plusieurs versions de sa relation avec Goebbels. Peu à peu, j'ai commencé à éviter ce sujet délicat. Sincèrement, j'avais pitié d'elle. Le moindre souvenir de Goebbels troublait énormément Lida Barova. Une fois, elle me disait avoir peur de lui. Une autre fois, elle me confiait avoir été amoureuse de son amour.
Et voici l'opinion de l'écrivain Andrzej Suchy qui vient de sortir le livre intitulé « Les trois vies de Lida Barova ».
Ona se samozřejmě bránila celý život a celkem i trošku.
Pendant toute sa vie, Lida Barova s'est défendue, ce qui était dans une certaine mesure juste. Quand elle a rencontré Goebbels, elle avait 23 ans. Alors on peut très bien imaginer ce que cela peut faire avec une jeune femme célibataire qui fait en plus une telle carrière. N'oublions pas non plus que cette liaison avec Goebbels a eu lieu avant la guerre. Bien sûr que cet épisode a dramatiquement influencé toute sa vie, celle de sa famille aussi. Sa sœur s'est suicidée, sa mère est morte d'une crise cardiaque suite à un interrogatoire à la police. Son père a été gravement malade. Mais je crois que son vrai problème était ailleurs. Dans les livres, elle présentait la réalité à chaque fois un peu différemment. Parfois, ces différences sont très flagrantes. Elle ne se souvenait pas exactement de ce qu'elle avait raconté à tel ou tel interlocuteur. Cela a fait douter de ses propos. C'est pour cela que les gens, notamment les journalistes, revenaient sur ce sujet, insistaient pour qu'elle s'explique ce qui la fatiguait. Mais ils l'ont fait parce que Lida Barova a toujours été mystérieuse à ce propos. Si une fois, dans un pays libre, elle avait ouvertement parlé de ce qui s'était passé entre elle et Goebbels, qu'est-ce qu'on aurait pu lui reprocher ?
Dans son livre, Andrzej Suchy a recueilli les témoignages et souvenirs des amis, des proches, des collègues de Lida Barova. Il donne aussi la parole à la jeune génération qui s'intéresse à sa filmographie plutôt qu'à la vie sentimentale de l'actrice. Il interroge le réalisateur Filip Rencz qui rêve de porter la vie de Barova à l'écran. Curieusement, le projet, Rencz envisage une grande production tchéco-allemande, le projet a du mal à se réaliser faute de moyens financiers, comme si une certaine malchance poursuivait Lida Barova, même après sa mort. C'est par ce magazine consacré à l'actrice Lida Barova que nous vous avons proposé en rediffusion que s'achève le programme de Radio Prague en langue française. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de votre attention. Au revoir, à demain.